bien CFM dans le cadre de la campagne pour les élections régionales, au conseil régional de Midi-Pyrénées, je précise, parce qu'en même temps, on est dans Midi-Pyrénées, mais je souhaiterais qu'on parle effectivement du conseil régional de Midi-Pyrénées. Je reçois donc tous les représentants départementaux des candidats. Serge Roch représentera l'UMP, Martine Guiraud, lutte ouvrière, Marie-Lou Marcel, le Parti Socialiste, Jean-Marie Doré, le Mouvement Démocrate, Marie-Françoise Vabre, Vert Europe Écologie.
Mais bon, oui.
Oui, oui mais oui. Donc...
Europe Écologie, oui.
Europe Écologie, voilà.
C'est pas PS,
PRG, MRC. Et même d'autres m'a dit votre tête de liste régionale. Hein. Il m'a exposé quels étaient les autres lorsque j'ai eu l'entretien téléphonique. J'en étais donc à Europe Écologie. Pour le Front de Gauche, j'espère que ça va aller, c'est Guillaume Serriès. Pour le nouveau parti anticapitaliste, Maxime Gaillac. Et pour le Front National, Jean-Pierre Horégan. Donc tout le monde est là, ils sont 8, encore un peu, je crois qu'ils seront plus nombreux qu'aux européennes. Et j'aurais souhaité, donc c'est à vous de débattre, moi je ne vais pas intervenir, tout le monde le sait, une des activités principales, en tous les cas à proportion de la région, c'est l'enseignement secondaire sur les lycées, mais pas seulement, c'est aussi les CFA, bref, la formation en général. Il a été question aussi d'une école de la deuxième chance, différentes dispositions chez les uns et chez les autres sont envisagés pour aider les lycéens et les gens en formation. Et je souhaiterais également qu'on voit, puisque certains d'entre vous l'évoquent, les dispositions qui peuvent être prises pour s'assurer que l'aiguillage, que la bonne formation est effectivement choisie. Donc, vous avez compris, le premier sujet que je souhaiterais que vous abordiez, c'est donc la formation. Et pour ça, je vais passer la parole au sortant, si je puis dire, donc à Mme Marcel pour le Parti Socialiste.
Oui, merci. Alors, en ce qui concerne l'enseignement, la formation professionnelle, c'est une des principales politiques de la région Midi-Pyrénées, enfin des régions en général. C'est une des compétences majeures. Alors, dans les lycées, aujourd'hui, il y a des politiques que la région a mises en place au cours de l'année passée. Ces politiques ont été largement approuvées par les concitoyens. Alors j'en citerai quelques-unes. Donc depuis 2004, nous avions pris des engagements qui ont été tenus. En particulier, il y a eu dans les lycées la gratuité des livres, il y a eu ensuite la bourse de premier équipement pour les apprentis, pour tous les élèves de l'enseignement professionnel, la rénovation, la modernisation des lycées, et également la construction de nouveaux lycées. Il y a eu aussi la rénovation des CFA, particulièrement celui de Rodez qui est en cours, l'accompagnement de projets universitaires en ce qui concerne l'investissement, le logement étudiant également. Alors, notre projet pour les quatre ans qui viennent, eh bien sûr, des mesures concrètes qui seront dans la continuité des politiques que nous avons déjà engagées sur les précédents mandats. Et nous irons plus loin. Nous poursuivrons les politiques déjà mises en place et nous irons encore plus loin. Alors, en ce qui concerne les lycées, je ne détaillerai pas l'ensemble des mesures que nous mettrons en place. Mais une des mesures phares, c'est un ordinateur portable pour les élèves à l'entrée en seconde. Alors, un ordinateur portable, non pas gratuit, mais un ordinateur portable avec une aide proportionnelle aux revenus. Alors, cette politique, c'est dans la continuité de celle que nous avons engagée avec la gratuité des livres scolaires. Ensuite, une mesure également pour les étudiants, ce sera la mise en place d'un pass mutuel. Alors, pourquoi ? Parce qu'on sait qu'actuellement, plus de 20% des jeunes ne se soignent pas. Alors, ne se soignent pas parce qu'ils n'ont pas le budget nécessaire pour mettre en place ces soins. Ensuite, en direction de la jeunesse, il y aura un billet terre à 1 euro. Pour les déplacements domicile, lieu de scolarité, pour les lycéens et pour les apprentis.
Madame Marcel, je crois qu'on a un petit peu compris quels allaient être vos développements. Vous avez vu que vous étiez nombreux. Vous avez conduit cette politique avec un autre sortant qui, à l'époque, ne s'appelait d'ailleurs pas Parti de Gauche, si je ne me trompe pas, mais qui aujourd'hui est candidat en tant que Parti de Gauche. Donc, Guillaume Sériès, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ces actions autour de la formation? Qu'est-ce que vous allez changer? Et j'ajoute d'ailleurs, pas seulement à l'intention de Guillaume Sériès, mais à l'intention de tout le monde, la formation, j'aimerais bien également qu'on voit dans quel sens on la donne, c'est-à-dire à quel point aller relier avec éventuellement les entreprises de la région, avec le tissu économique de la région, et à quel point, surtout, l'orientation, je dirais, la formation, pourquoi faire.
Oui, écoutez, pour le Front de Gauche, d'abord, effectivement, vous avez raison de préciser qu'on a participé à la majorité régionale depuis 6 ans. On considère qu'il y a eu des points très positifs dans le bilan de la majorité régionale, et en particulier, en partie, sur le secteur de l'éducation. Et sur ce sujet, comme sur les autres, l'enjeu de cette élection, il va au-delà des politiques mises en place par la région. Le vote des Midi-Pyrénéens et des Français le 14 mars est déterminant pour sanctionner la politique de Sarkozy et mettre en avant d'autres choix, en particulier sur les questions d'éducation, de formation, de services publics. Parce que si la région a mis en place des actions très positives depuis 6 ans, pour entretenir, rénover, construire les lycées, donner des conditions de travail bien meilleures que ce qu'elles étaient avant, en particulier pour les lycéens, des lycées professionnels, je pose la question, à quoi sert-il de mettre en place de magnifiques ateliers pour l'enseignement professionnel avec des machines très modernes, par exemple dans la mécanique auto, si un an ou 2 ans après, le ministère de l'Éducation nationale supprime les postes d'enseignants et les filières pour lesquelles ces investissements ont été faits. Donc, on ne peut pas déconnecter question régionale et question nationale. Nous voulons, sur ce dossier de la formation et des lycées, donner la priorité absolue au secteur public de l'enseignement, public, républicain, laïque, que ce soit pour les lycées et la formation professionnelle. Parce qu'à un moment où le gouvernement rogne par tous les bouts, le périmètre du service public d'éducation, que ce soit à la maternelle, dans les lycées, à l'université, pour faire la place aux officines privées, la puissance publique. Et les régions doivent effectivement se montrer combattantes, offensives, autour de 2-3 principes simples. 1. Réorienter les fonds qui sont aujourd'hui destinés aux lycées privés, au-delà de ce que prévoit la loi, les réorienter sur le service public d'éducation, pour en faire notre priorité. Dans le secteur de la formation professionnelle, retrouver le monopole public qu'avait avant, en particulier par exemple, l'AFPA pour la formation professionnelle pour adultes, que le gouvernement a décidé de mettre en concurrence avec le secteur privé de la formation. Pour les lycéens, il faut mettre en place la gratuité totale des fournitures scolaires pour les apprentis, de l'ensemble de l'outillage nécessaire pour l'apprentissage. Pour les lycéens, nous proposons aussi, parce que nous savons que de nombreuses familles n'assurent pas 2 repas équilibrés par jour à leurs enfants. Nous proposons que la région, pour les revenus les plus faibles, mette en place la gratuité du repas équilibré le midi dans les lycées de Midi-Pyrénées. Voilà pour les lycéens et la formation. Un mot sur la jeunesse en général, parce que c'est une priorité qu'on porte dans cette élection, faire le pari de la jeunesse. Jamais, depuis des décennies, voire des centaines d'années, on a eu une génération, comme aujourd'hui, de jeunes qui n'est pas sûre de vivre mieux que la génération de ses parents. La faute à la crise du capitalisme et à la brutalité du gouvernement de M. Sarkozy. Nous proposons de favoriser et d'assurer l'autonomie sociale des jeunes. Un, en assurant la gratuité des transports collectifs pour l'ensemble des jeunes en formation sur cette région. Deuxièmement, favoriser l'autonomie sociale par l'accès à la santé, l'accès au logement, l'accès au permis de conduire et la promotion du CDU comme premier emploi pour sortir de la précarité organisée.
C'est quoi, le CDU ?
Le CDI. On sait de moins en moins ce que c'est, mais justement, il faut le réhabiliter pour sortir de la précarité organisée que subit la jeunesse aujourd'hui.
Alors, on a entendu, entre guillemets, les sortants, qui ne sont pas vraiment les seuls, le premier des postulants, si je puis dire, puisque en plus, on a mis en cause les actions nationales, M. Roch pour l'UMP, et à propos des formations.
Oui, chacun va exposer un petit peu ce qui fait la spécificité de son programme. Alors, il est bien évident que ce qui concerne la formation, l'éducation, c'est une compétence majeure de la région sur laquelle il faut mettre le paquet, comme on dit, parce que ça garantit l'avenir. Donc nous, ce que nous pensons, c'est que la région doit s'investir davantage sur les formations d'avenir, les préparer la jeunesse à tous les métiers qui lui permettent d'avoir plus facilement, plus sûrement un emploi. Ça veut dire développer tous les métiers concernant l'innovation technologique, la nanotechnologie, tout ce qui tourne autour de la nanotechnologie, également les emplois autour des emplois verts. On sait qu'actuellement, tout ce qui tourne autour de l'environnement est extrêmement porteur et que les filières qui forment à ces nouveaux métiers permettent à leurs postulants de trouver beaucoup plus facilement un emploi, que même souvent ils sont recrutés avant même d'avoir terminé leur cursus. On souhaite également améliorer, renforcer les relations entre le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise, et d'autant plus que la région a précisément son autre compétence majeure, c'est l'économie, et on sait bien qu'en France l'éducation souffre trop de son éloignement par rapport au monde de l'entreprise, tout ce qui est formation en alternance, tout ce qui est également apprentissage. Le gouvernement a fait un très gros effort pour développer l'apprentissage dans notre métier et on veut lancer l'opération une entreprise, un apprenti, parce que là aussi les apprentis sont assurés de trouver des emplois à la clé et que c'est très important pour développer les emplois dans notre métier, dans notre pays. Et puis il y a tout ce qui tourne autour de la sécurité également dans les établissements scolaires.
Est-ce que vous êtes en train de dire qu'il y a des filières qui manquent et que vous les créeriez ?
Bien sûr, oui, il y a des filières qui préparent l'avenir, et ces filières, il faut les créer. Elles manquent aussi, vous me permettrez de parler au nom de l'Ouest Aveyron, on est ici, dans ce territoire très déficitaire en matière de formation spécialisée ou de formation supérieure, et moi je demande à la région depuis déjà quelques années, on peut dire maintenant, de créer à Villefranche plus de formation que ce qu'on en a. On a beaucoup de retard ici dans le secteur et notamment on souhaite créer une formation d'aide-soignante sur le secteur puisqu'ici elles sont obligées d'aller à Morse dans le Cantal ce qui est quand même tout à fait la porte à côté et donc on souhaite développer également ce type de formation et puis on a aussi des programmes concernant les ordinateurs concernant les transports les passes transports, tout ça est également prévu dans le programme. Des logements également pour les étudiants. On manque de logements. Il y a également une ligne et une volonté de développer des logements d'étudiants. Enfin bref, il y a naturellement sur ce dossier qui est capital concernant les compétences de la région et concernant surtout son avenir, il y a des mesures très importantes. Il faut à tout prix que la région qui a fait, effectivement, en matière d'enseignement, c'est bien normal, c'était une de ses compétences principales, mais il faut en faire plus, d'ailleurs ce que disent je vois les sorteurs, et en faire plus dans le sens de la modernité, de l'environnement, de la sécurité.
Martine Guiraud pour Lutte Ouvrière, je suppose que la formation de ceux qui vont œuvrer et de savoir si oui ou non c'est en prise avec le tissu économique. Je pense que Lutte Ouvrière doit avoir quelque chose à dire là-dessus.
Bien entendu, dans le domaine de l'éducation, qui est effectivement une des compétences du Conseil régional, je voudrais tout de même dire que c'est avant tout un service public national et qu'en tant que tel, il subit les attaques du gouvernement, comme tous les autres services publics d'ailleurs. Alors on pourrait multiplier les exemples, hein, qu'il s'agisse des suppressions de postes de fonctionnaires. On sait très bien que dans les lycées, les professeurs ne sont pas remplacés. Il y a eu des exemples à Rodez et dans d'autres villes. Les classes qui ferment, dans les villages, les écoles sont supprimées. On pourrait multiplier comme ça la liste. Et ben tout ça, on pense effectivement que non seulement ce n'est pas normal, mais qu'en plus cette politique, elle est faite parce que le gouvernement donne des milliards et des milliards aux banquiers, aux actionnaires, aux propriétaires des grandes entreprises. Et tout cela se fait au détriment de ces services publics, dont l'éducation. On n'est pas le seul, malheureusement. Et d'autre part, je voudrais rajouter que souvent, l'éducation, effectivement, est également une occasion de donner de l'argent au privé, on l'a rappelé. Mais c'est souvent une occasion de la part du Conseil régional de financer le privé. Et là, de ce côté-là, à Lutte ouvrière, nous sommes absolument contre toute subvention au privé. L'argent public doit aller uniquement au service public. Donc ça. Et d'autre part, je voudrais rajouter aussi que si l'on passe à l'avenir des jeunes, eh ben, malheureusement, l'avenir qui les attend actuellement, ben, c'est surtout le chômage. Justement, toujours à cause de cette politique qui favorise les grandes entreprises, qui d'un côté font des profits incroyables. Tous les jours, elles annoncent des profits records. Et de l'autre côté, elles licencient. Alors, on a des exemples aussi dans la région, hein, que ce soit à Bosch ou dans d'autres entreprises. Et donc, c'est la même chose, nous, là-dessus, Nous pensons que le vote Lutte ouvrière pourra servir en premier à exprimer son indignation et sa colère contre cette politique.
Alors le Front National, Jean-Pierre Horrigan, concernant là aussi la formation.
Alors voilà, exactement, je ne suis ni sortant ni spécialiste de l'éducation nationale. En ce qui me concerne, je suis un peu néophyte et je me perçois simplement qu'il y a deux choses qui me frappent dans l'éducation actuellement. C'est un certain taux d'illettrisme qui est incontestable. Et donc, il y a une lutte contre l'illettrisme qui passe alors là par la revalorisation peut-être du corps enseignant, c'est facile. Mais aussi, un deuxième point, c'est la dépolitisation dans les écoles. Ce serait bon quand même d'arrêter un peu de politiser trop par des sittings, par des manifestations permanentes.
Comment, au niveau du Conseil régional, vous entendez intervenir à ce niveau-là?
Écoutez, ça, je ne suis pas encore au Conseil régional, donc je ne peux pas vous dire comment je le ferai. Mais en ce qui me concerne, c'est des choses que je vois par un bout de la lorgnette. Je ne suis pas du tout dans le milieu de l'éducation nationale. Mais enfin, je le vois auprès de mes petites filles, je le vois dans mon entourage. Ça reste quelque chose qui me frappe assez, c'est de voir continuellement des manifestations, des arrêts pour des questions politiques. Et on en vient ensuite à une autre chose qui serait tout simplement aussi en ce qui concerne la sécurité. Au lieu de mettre un flic derrière chaque élève, tout simplement de reprendre un peu l'éducation civique. Parce que l'éducation civique me paraît être une chose indispensable quand même, qui empêcherait bien des problèmes. Et d'ailleurs, on s'aperçoit souvent d'ailleurs que dans les écoles rurales, où il y a un taux de... une sorte de beaucoup plus de coopération entre les professeurs les instituteurs et les familles, et il ne se passe aucun problème, enfin, ou très rarement. Et c'est là où justement, il y a moins de... Dans les villes plus importantes que se posent des problèmes. Donc, ces problèmes sont liés. Pour moi, je m'arrête à arrêter l'illettrisme, arrêtons la politisation pour des gosses de... J'admets qu'on fasse de la politique à un certain âge, c'est évident. Mais enfin, commencer à amener des enfants dans des manifestations, dans des grèves, comme mes petites filles à 9 ou 10 ans, je trouve ça assez lamentable. Alors, il y a aussi l'histoire. On pourrait reprendre un peu l'histoire de France.
Mais tout ça, c'est de l'ordre du programme scolaire. Et à ma connaissance, à moins qu'il y ait des changements, Conseil régional ne fixe pas les programmes scolaires.
Oui, mais enfin, bon, j'admets, si vous voulez, que nous sommes dans un débat régional, mais on est quand même un peu lié par l'action nationale. On ne peut pas l'empêcher. Donc, je suis obligé de dire que sur le plan national et le plan régional, on en déduit à chaque fois les causes. Parce que ce que je vois, moi, en ce qui me concerne, c'est des choses que le Français moyen doit voir dans la vie. Parce qu'il est au contact de ces choses-là en permanence. Voilà ce qui me choque. Et je n'ai pas actuellement tous les remèdes, c'est évident. Les remèdes, ce n'est sûrement pas de mettre un policier par élève. C'est une chose qui me paraît aberrante. C'est même totalement aberrant. Il y a l'éducation civique, par exemple, quand même, qui apprendrait aux enfants de reprendre un petit peu les bases de la vie des citoyens. Voilà, je ne veux pas vous développer davantage. Il y a des petites astuces aussi, alors, mais ça, ce sont des astuces du programme que j'ai... Je ne vais pas vous saouler avec cette
vous êtes un petit peu là pour le programme, en principe.
Non, c'est le programme,
là-dessus que les électeurs, j'espère, se déterminent. Alors, concernant l'éducation, et je me tourne maintenant vers Europe Écologie, Marie-Françoise Vabre, là aussi, quel est le point de vue donc d'Europe Écologie sur cette éducation, la prise, à quel point est-elle en prise, ou peut-elle, le Conseil régional peut-il aider à ce qu'elle soit en prise avec véritablement la région sous tous ses aspects?
Oui, donc je vais parler région. Et la région a effectivement une compétence importante qui est la formation professionnelle. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que en matière de formation professionnelle, il y a des appels d'offres. Ces appels d'offres sont pour une durée limitée. Ils sont renouvelés, donc ça crée. Il n'y a pas de continuité dans les formations qui sont mises en place, d'une part, et d'autre part, il y a une très grande précarité des personnels formateurs. Donc la proposition que nous faisons aujourd'hui, nous, c'est qu'effectivement cette compétence soit prise en charge à part entière par la région et qu'il y ait un véritable service public de la formation professionnelle qui soit mis en place au niveau de la région. Ça nous paraît important.
Ça veut dire que vous embauchez des enseignants?
Des formateurs, puisque je parle de formation professionnelle. On ne demande pas que l'éducation, que la région remplace l'éducation nationale. Soyons bien clairs, hein. Donc et on partage les points de vue qui ont pu être développés sur le fait aujourd'hui qu'il y a des attaques effectivement sans précédent au niveau du gouvernement par rapport à l'éducation nationale, et quand on parle région, et bien sûr que ici nous parlons des compétences de la région et donc de la formation professionnelle. Donc de ce point de vue-là, on pense qu'il faut effectivement faire une évaluation des besoins et des besoins par rapport aux emplois, parce que la préoccupation majeure aujourd'hui, c'est de voir comment on peut créer des emplois et permettre que les emplois existants puissent se pérenniser. Donc ça veut dire très clairement qu'il faut penser les choses en termes de ressources locales, de nouvelles filières à développer. Aujourd'hui, par exemple, au niveau de... il y a tout un grand plan à opérer en matière d'isolation des bâtiments. Donc il y a des filières à développer en termes de formation. Il y a des diagnostics à faire. Il y a aussi des métiers à développer de ce côté-là. Donc il y a toute une panoplie d'emplois par rapport à des ressources possibles, je veux dire de formation par rapport à un développement d'emplois qui correspondent aujourd'hui aux problèmes que nous avons devant nous à traiter, qui sont en particulier tous les problèmes d'ordre social, d'ordre écologique. Et donc la région peut tout à fait avoir une place centrale là-dessus. Alors après, plus particulièrement sur la jeunesse, vous me parlez de l'éducation, plus particulièrement sur la jeunesse, on partage le point de vue de dire qu'effectivement, il faut que la jeunesse en Midi-Pyrénées soit vécue comme une chance et non comme un problème. Et donc par rapport à ça, il faut effectivement qu'on se donne les moyens de... permettre que la jeunesse soit véritablement prise en compte. Elle soit prise en compte à travers les besoins qui sont les siens. Donc pour faire les études, il faut effectivement avoir un accès à un logement. Donc il faut absolument qu'il y ait là-dessus un programme de logement étudiant beaucoup plus conséquent qu'il ne l'est aujourd'hui, avec effectivement des prix qui soient accessibles. Il faut aussi qu'on pense, par exemple, on peut penser à une carte unifiée qui permette aux étudiants, aux lycéens et aux apprentis et autres de pouvoir avoir accès à la fois au transport, à la culture, au sport, aux loisirs. On peut penser à un certain nombre de choses comme cela.
Le mouvement démocrate, le mouvement d'Aigre-Noire qui parle derrière Europe Écologie, puisque je me suis fait reprendre par votre tête de liste régionale, puisque vous êtes le mouvement démocrate, et aussi Cap 21.
Oui. Voilà, c'est vrai, on est mouvement démocrate et Cap 21. Voilà, donc, passer après à septième position, c'est pas évident. Il y a pas mal de choses qui ont été dites. C'est vrai que la formation et l'éducation est une priorité pour la région. Cette priorité, elle doit servir aussi à un aménagement du territoire. C'est-à-dire que la formation doit être enseignée dans tous les départements de Midi-Pyrénées et dans toutes les zones où les jeunes habitent. Voilà. Et pour cela, j'ai entendu parler d'ordinateurs gratuits. Oui, c'est assez bien. Mais quand ils partiront chez eux, il y a encore trop de zones blanches. Ils ne pourront pas se servir de leur ordinateur. Voilà. Au niveau des logements, la région souffre de logements pour les étudiants et de la faculté de pouvoir prendre possession de ces logements. La région peut-être pourrait être caution des jeunes pour les logements. Le mouvement démocrate aussi est très sensibilisé pour les jeunes. Et on souhaiterait, si on est élu bien sûr, mais ça on y pense réellement, faire une gratuité des transports pour les étudiants. Voilà, il y a certains qui l'ont déjà soulevé. Et on souhaite aussi que toutes les classes d'âge de 18 ans aient le permis gratuit en relation avec les professionnels des auto-écoles. Voilà un peu ce que le... Et autre chose, ce serait peut-être la création de nouvelles filières. Certaines filières pour conserver le savoir-faire français, c'est-à-dire pour les monuments historiques, réparer des vitraux, le travail de la pierre, un peu comme font les compagnons, et eux le font avec excellence, bien sûr. Et puis créer aussi de nouvelles filières pour les emplois verts. Voilà un peu le programme du mouvement démocrate.
Donc surtout sur les filières à créer. Le nouveau parti anticapitaliste, sur la formation, les lycées et pourquoi et vers les jeunes, compte tenu de l'aspect de Maxime Gaillac, je pense que ça doit... on doit pouvoir obtenir des réactions.
Voilà, donc par rapport à l'aspect, voilà, j'ai 26 ans, donc c'est pour ça, je pense. Mais comme on est à la radio, ça se voit pas. Donc, bon, par rapport à l'éducation, déjà, juste pour vous corriger, le NPA ne part pas tout seul, hein, le NPA part avec le mouvement des objecteurs de croissance sur la région Midi-Pyrénées, c'est une liste commune. Donc sur l'éducation, nous déjà, ce qu'on fait, c'est on fait donc un constat, un bilan du conseil régional sortant. Voilà, nous, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément d'argent, de subventions publiques qui sont allouées à l'enseignement privé par le conseil régional, bien au-delà que ce que n'impose la loi. Voilà. Hier, Martin Malvy a inauguré à Toulouse l'Institut catholique universitaire. Voilà, donc, bon, sans commentaire. Nous, déjà, on est pour que l'argent public serve au service public. Donc que les fonds publics servent à l'éducation publique et que les fonds privés servent à l'enseignement privé. Voilà, donc déjà, parce que bon, les lycées publics, effectivement, moi je ne trouve pas qu'ils soient partout en bon état, que les conditions d'accueil des élèves soient bonnes partout. On peut prendre d'ailleurs les établissements qui sont en quartier populaire où il y a effectivement des manques de moyens énormes, manque d'encadrement, manque de surveillants. Voilà, donc nous, on est pour que l'argent public serve à l'éducation publique. Voilà. Ensuite, par rapport aux formations, alors, par rapport à la formation, les CFA, on voit que les CFA sont tenus par la plupart des CFA sont tenus quand même par la main du patronat. Et c'est pour ça que j'ai bien entendu le slogan un petit peu de l'UMP là-dessus, c'est une entreprise, un apprenti. Voilà, moi je rajouterai entre parenthèses, à bas coût, main d'œuvre pas chère pour le patronat. Voilà, donc nous on est plutôt pour développer la formation professionnelle publique, voilà, plutôt que de donner de la main d'œuvre à bas coût au patronat privé. Voilà, ensuite... Juste le représentant du Front National a dit quelque chose de très bien, et je pense qu'on doit certainement être tous très pas d'accord, c'est de dire les lycéens, il faut qu'ils arrêtent de manifester, ils nous cassent un petit peu, hein, voilà, je pense qu'il faut qu'ils arrêtent. Moi je pense que les lycéens et les jeunes sont peut-être les plus inquiets pour leur propre avenir, voilà, et c'est pour ça qu'ils se mobilisent. Et moi, j'espère qu'ils continueront à le faire. Le NPA les soutiendra dans toutes les mobilisations, voilà, pour un enseignement de qualité, voilà, parce qu'ils veulent un enseignement de qualité et ils sont préoccupés par l'avenir. Donc, je veux dire, la mobilisation des lycéens ne peut être que soutenue par, voilà, enfin, le NPA la soutiendra en tout cas. Ensuite, par rapport à la formation professionnelle, on est aussi pour l'injection un véritable service public de formation professionnelle sur les énergies renouvelables, sur les emplois verts. Voilà. Je tiens à signaler, bon, on fait le bilan du conseil régional sortant aussi. Hein. Donc, on va me dire si je me trompe, mais je crois que le conseil régional sortant a quand même aidé largement à la création d'un centre de formation pour Veolia, voilà, qui brille bien sûr par sa neutralité, par son. Voilà, c'est un service public, hein, on va dire, on va le voir comme ça. Donc nous, on est plutôt pour que cet argent-là, il soit injecté dans la création de centres de formation publics, voilà, sur, effectivement, de nouvelles filières, que sont les énergies renouvelables, que sont. Mais l'argent public, pour nous, doit servir au service public. Alors, j'insiste bien là-dessus. Quoi.
Plusieurs d'entre vous qui parlent de l'usage de l'argent public qui est envoyé vers le privé, hein, on l'a entendu, plusieurs d'entre vous en ont parlé. Alors, ça peut nous amener, ça nous amène vers le deuxième sujet qui est le budget de la région. Alors donc, j'observe que certains d'entre vous constatent qu'elle distribue abondamment ses crédits vers le privé, qu'il s'agisse de la formation ou même des entreprises. D'autres que j'ai entendu par ailleurs se préoccupent des revenus de la région puisque il semblerait que la taxe professionnelle soit modifiée, que l'État distribue ou compense des charges qu'il met sur les collectivités locales. Donc j'aurais souhaité qu'on parle justement du budget de la région. Est-ce que les uns ou les autres vous allez devoir chercher des ressources, diminuer les impôts? Je sais que le Front National souhaite diminuer beaucoup de choses, d'ailleurs. J'ai lu ça dans vos documents, M. Aurégan.
Mais oui, il faudrait commencer déjà par diminuer les charges qui sont afférentes actuellement à tous les frais de fonctionnement, notamment. Je n'ai pas les chiffres. Et d'ailleurs, en plus, ce qui est amusant, c'est que j'ai oublié mes lunettes. Donc, de toute façon, je n'aurais pas pu vous abrutir avec ça. Mais puisqu'on parle chiffres, je peux vous dire que le budget des carburants, entre autres, a plus que doublé. Il y a des tas de frais de représentation qui ne sont pas nécessaires, sur lesquels les gens pourraient faire des économies. Il avait été prévu qu'on aurait moins de vice-présidents. En fait, il y en a eu davantage. Enfin, je n'ai pas en tête tous les moyens de réduire, mais il y a beaucoup de choses à réduire, en effet, sur les frais de fonctionnement de la région. Bon, ça, c'est une chose. Ensuite, il y a le fait que il y a beaucoup d'associations aussi qui en distribuent des sommes relativement importantes. J'ai plus le chiffre, mais enfin, il y avait 200 associations qui se partageaient des très grosses sommes. Je pense que avant de donner de l'argent à des associations, il faudrait d'abord les tester, qu'elles soient d'abord capables elles-mêmes à 50% au moins de pouvoir s'autofinancer et puis de les rétribuer au bout d'un certain temps, c'est-à-dire notamment un an qui avait été prévu. Il y a des idées là-dessus au niveau des impôts qui sont d'essayer de serrer en période de crise, de serrer davantage les finances, c'est certain. Bon, je pensais qu'on allait débattre d'ailleurs de choses, non pas point par point, mais qu'on allait pouvoir parler.
Ah, mais si vous êtes tous extrêmement.
Non,
bien élevés, j'en suis fort aise, mais en même temps, effectivement, ça enlève peut-être un peu d'animation.
J'ai pas tous les dossiers en main, d'abord je suis pas sorti.
Alors, Madame Marcel.
Il y a eu des choses qui se sont dites, notamment juste avant, sur l'éducation, que je partage entièrement. Et je n'ai pas rentré dans les détails à chaque fois. Ah oui. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent dans ce qui a été dit, c'est évident.
Ah ben, il ne faut pas manquer de complimenter vos co-débatteurs.
Je ne suis pas entièrement critique. Je veux dire, il y a des choses à prendre à gauche ou à droite, c'est évident.
En fait, critique, Mme Marcel, on a entendu les co-débatteurs et certains de vos amis donc nous indiquer que vous distribuiez de l'argent public à des fins d'utilisation privée. Et apparemment, ça déplaît à beaucoup de vos amis.
Alors oui, on entend même parler parfois de saupoudrage. Alors, moi, je vais... Si nous regardons le budget de la région, il s'élève à 1,25 milliard. Et il y a des compétences majeures qui ont été transférées dans le cadre de la décentralisation. La première des compétences, nous l'avons vu, c'est l'enseignement et la formation professionnelle. Sur cette seule compétence, hein, et j'insiste, c'est vraiment une compétence majeure, c'est plus de 450 millions d'euros qui sont consacrés à cette compétence. Moi, je donnerai un exemple.
Qui viennent d'où les 450 millions d'euros ? C'est l'État qui les donne, c'est l'impôt que vous levez, c'est un
Alors justement, je pourrais vous répondre là-dessus. Lorsqu'on parle de décentralisation à l'euro près, eh bien, dans le cadre de l'investissement dans les lycées, hein, quand la compétence a été transférée aux régions, la dotation de l'État pour l'investissement dans les lycées, c'est 20 millions d'euros. 20 millions d'euros pour l'année 2009. L'investissement réalisé par la région Midi-Pyrénées pour les lycées, c'est 8 fois plus. C'est 160 millions d'euros. Donc nous sommes très, très loin d'une décentralisation à l'euro près. Ensuite, la deuxième priorité, c'est l'aménagement du territoire et le développement économique. Là aussi, c'est une partie du budget qui est consacrée à cette compétence. Il en va de même pour les transports, les terres, les transports régionaux. Donc c'est une compétence qui a été transférée. Là aussi, c'est simplement pour les transports, c'est plus de 340 millions d'euros qui sont consacrés à cette compétence. Le dernier point, c'est l'économie et l'emploi. L'économie et l'emploi, c'est 128 millions d'euros. Donc nous sommes loin du saupoudrage. C'est vraiment la réalisation du budget de la région. C'est à plus de 80%, 85% qui part sur des compétences qui ont été transférées par la loi. Alors, un mot, vous parliez tout à l'heure de la réforme de la taxe professionnelle. Ben, réforme de la taxe professionnelle, vraiment, cette réforme va rendre les collectivités exsangues. Elles n'auront plus du tout de marge de manœuvre. En ce qui concerne la région Midi-Pyrénées, la seule marge de manœuvre, ce seront les recettes sur les cartes grises. Aucune marge de manœuvre. La collectivité dépendra de dotations d'État. Et dotations d'État, je vous l'ai expliqué avec l'investissement dans les lycées. Je pourrais vous donner un deuxième exemple dans le cadre de la décentralisation. La décentralisation, les dernières décentralisations, c'est le transfert des formations sanitaires et sociales à la région et également le transfert des TOS, hein, c'est le personnel non enseignant. Pour ses compétences transférées en 2004, le delta entre le coût réel de cette compétence et la charge pour la région, le différentiel entre dotation d'État et charge, c'est plus de 100 millions d'euros sur 3 ans. Donc nous sommes loin de décentralisation à l'euro près.
Alors, Monsieur Roch, vous êtes un petit peu le représentant de ces gens qui décentralisent et redélèguent des compétences sans rééquilibrer vraiment à l'euro près. D'autre part, Madame Marcel ne nous a pas répondu sur ces investissements qui vont au privé. Alors, je sais pas, vous avez peut-être aussi, vous, une opinion là-dessus. Et puis, peut-être qu'on arrivera à revenir à un moment ou à un autre sur savoir comment on va compenser cet argent qui manque tellement par rapport à celui qui provient de l'État.
Oui, concernant l'argent qui va au privé, nos interlocuteurs oublient peut-être au passage de dire que l'État, d'où vient l'argent de l'État, l'argent public, bon, c'est l'argent que distribue l'État, mais d'où vient cet argent? Pour grande partie, il vient quand même des impôts, des taxes diverses que payent les entreprises privées. C'est de l'argent privé qui devient public à partir du moment où il est transformé en impôts et en taxes, mais enfin, il vient bien du secteur privé. Donc,
du travail des salariés
et des entreprises. Et enfin, je veux dire,
c'est essentiellement quand même celle des salariés. Je pense qu'il faut appuyer là-dessus.
Bien sûr,
parce que sans salariés sans travailleurs, il n'y aurait pas de richesse produite.
Oui,
monsieur.
Mais tout à fait, mais sans chef d'entreprise non plus. Je veux dire, je crois qu'il est très dangereux Mais oui, mais.
Non, mais écoutez, les cadeaux que fait votre gouvernement au patronat, je veux dire, vous n'allez pas
nous dire. On va laisser parler, monsieur.
Voilà, les cadeaux. Mais je ne sais pas, moi, ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez que toutes les entreprises partent à l'étranger? On va revenir à l'histoire de la taxe
professionnelle. Au niveau du conseil régional, comment imaginez-vous de compenser?
Non, mais on a critiqué le problème concernant l'enseignement privé. L'enseignement privé a été doté par l'État d'une mission de service public. C'est dans les textes, c'est dans la loi, c'est comme ça. Bon, et ça peut ne pas vous plaire, mais à ce moment-là, il faut se présenter aux élections, gagner les élections et réformer la loi. Bon, tout est possible. Hein. On est dans un régime démocratique, et Dieu merci. Et si vous arrivez au pouvoir, eh bien, vous ferez ce que vous souhaiterez, bon, pour le pays. Mais en attendant, c'est la loi, le conseil régional, comme notre collectivité, l'applique, et je constate aussi que quand vous voyez le cursus des Français, eh bien, vous avez 40% des jeunes qui passent à un moment donné par l'enseignement privé. C'est les chiffres qui le disent. 40%. Bon. Ils y font pas toute leur carrière, mais ils y passent un certain temps. Donc, ça prouve bien que du côté des Français, personne n'oblige les jeunes Français à aller dans l'enseignement privé. Ils y vont parce qu'ils veulent bien y aller.
Bon. On casse l'outil de l'enseignement public.
Mais pas du tout. Et on consacre beaucoup plus d'argent à l'enseignement public qu'à l'enseignement privé. Bon. Mais très bien. Mais je veux dire, je ne crois pas que vous rendiez service au pays en opposant le public et le privé. En réalité, on a besoin des deux. Vous avez deux jambes et vous êtes heureux que les deux marchent. Eh bien, un pays, c'est comme cela. Le jour où vous n'aurez plus d'entreprise privée dans ce pays, vous m'expliquerez comment vous financez le secteur public. Vous m'expliquerez, j'aimerais bien savoir. Et j'aimerais bien savoir aussi dans quel pays ce que vous préconisez fonctionne. Est-ce qu'il y a un seul pays où ça fonctionne? Bon. J'en vois pas, hein. On peut chercher, je n'en vois pas. Et c'est quand même dans les pays où l'économie fonctionne le mieux que la politique sociale est également la plus développée. Et c'est comme ça. Pour faire de la politique sociale, il faut quand même avoir quelques moyens. Bon. Et donc, moi je souhaite, et je pense que les Français le souhaitent aussi, que l'économie marche le mieux possible et qu'ainsi on pourra avoir effectivement un grand service public parce que c'est comme cela qu'on pourra le financer. Alors, la taxe professionnelle. Là aussi, moi, j'aimerais bien un peu rétablir les choses. La taxe professionnelle. Tous les gouvernements, de tous les partis, ont dit que cette taxe professionnelle, c'est un impôt imbécile. Tous. Et ils ont dit, c'est un impôt qui... aussi, ça a été dit partout, oui. Que c'était un impôt anti-économique, qui n'existait qu'en France et qu'il fallait supprimer. Bon, ça, tout le monde est d'accord. Le problème, c'est de savoir comment. C'est là où la difficulté commence. Oui, mais tout le monde admet que c'était un impôt qui pesait sur les entreprises, qui pénalisait les entreprises. Moi, je ne sais pas, on ne peut pas à la fois pleurer sur les entreprises en disant, voyez, elles ferment quand même, c'est malheureux, verser des larmes de crocodile, et puis après, ne pas donner la solution. Que voulez-vous? Vous pouvez tourner le problème dans tous les sens, quel que soit le parti. Eh bien, si vous taxez les entreprises, elles fermeront, elles partiront à l'étranger.
Alors, qui allez-vous taxer?
Et voilà. Et donc, ça veut dire qu'il faut. Si vous voulez qu'il reste des industries et des entreprises dans ce pays, je pense que quand même tout le monde peut le souhaiter, parce que je ne vois pas comment on pourra faire tourner le pays sinon, eh bien, il faut s'efforcer de moins peser. Et au moment où il y a une concurrence internationale terrible, au moment où il y a la crise, je pense que l'abaissement de la TP, c'est la partie investissement, parce qu'on est taxé sur l'investissement. Plus une entreprise investissait, et plus on l'a taxé. Et là, la réforme propose de le taxer sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire sur les bénéfices. Ça paraît quand même beaucoup plus logique, et beaucoup plus économique, et beaucoup moins anti-économique. Voilà. Et si on veut préserver l'emploi dans ce pays, parce que derrière les entreprises, moi je suis d'accord avec vous, il y a l'emploi, il y a les salariés. Eh bien, si on veut ne pas voir le chômage augmenter considérablement, et je vous rappelle que quand même en France, il augmente bien trop, mais enfin, il augmente moins qu'en Espagne où il y a un régime socialiste. Beaucoup moins, par exemple. Bon, et bien, si on veut encore une fois, soutenir l'emploi, eh bien, diminuer la TP, c'est une excellente mesure. Et dans la mesure où les collectivités sont compensées, je vois pas de quoi on se plaint. C'est quand même une mesure qui va dans le bon sens.
C'est un peu ma faute, mais on a largement dévié sur la taxe professionnelle, alors que j'aurais voulu qu'on parle du budget.
Marie-François, pour Europe Écologie, j'aurais voulu qu'on parle
du budget du Conseil régional. Où on prend l'argent et qu'est-ce qu'on en fait un petit peu?
Bien sûr, mais je voudrais quand même réagir à ce qui vient d'être dit par rapport à la taxe professionnelle. Parce que les contributions qui vont remplacer cette taxe professionnelle ne vont pas être compensées en totalité. Il y aura un manque à gagner global de 20% de ressources pour l'ensemble des services publics. Alors, ça, non, c'est non, quand non, même. Et donc, ça veut dire non, très non, clairement non. que
il y
ça participe.
20% de TP à si. Moins pour les.
Non, non, mais les globalement. Globalement. Mais il y aura aussi. Il y aura 20% à moins.
Vous étiez bien élevé.
Il y aura 20% à moins, globalement, pour les collectivités territoriales en général. Et donc, ça veut dire pour les services publics.
C'est pas vrai.
Bien, apportez-moi la preuve du contraire, parce que vraiment.
Les collectivités ont reçu leur budget et ils ont les mêmes.
Écoutez, permettez que quand même, ce que je dis.
L'écologie va faire moins de choses ou va taxer qui ?
Non, mais attendez, la question, premièrement, c'est que on est dans une situation où, effectivement, il y a un gouvernement aujourd'hui qui privatise par tous les bouts, qui supprime les services publics et qui casse la fonction publique hein, de manière générale avec un transfert de compétences sur les régions. Alors certes, les régions les reprennent, mais ça voudra dire, effectivement, qu'il faudra agir aussi pour qu'il y ait des ressources de l'État qui soient transférées aux collectivités territoriales à la hauteur des transferts des missions qui leur sont données. Ça, c'est la première des choses. Alors après, en ce qui concerne le budget, ben, aujourd'hui, on n'a pas été gestionnaire dans le conseil régional. Donc ça veut dire très clairement que si au bout du bout, il faut effectivement trouver de l'argent public, il faudra voir effectivement comment on fait. Mais dans l'immédiat, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut déjà analyser les dépenses, comment elles sont réparties, voir si à un certain nombre, parce que tout à l'heure on disait il y a des saupoudrages qui manquent d'efficacité complètement, donc on peut aussi rendre plus efficace aujourd'hui l'argent public du Conseil général pour partie. Mais ça ne veut pas dire que demain, on refusera effectivement le fait de voir en quoi l'impôt peut être révisé. Parce qu'aujourd'hui, la part qui va à la région est excessivement réduite quoi, hein, en matière d'impôt. Voilà. Parce que on nous a toujours habitués à l'idée de « il y a trop d'impôts ». Or, le problème, c'est qu'à partir du moment où l'impôt n'existe pas, ça veut dire que la population paye les services. Et ça veut dire que les gens qui ont de l'argent, ils se payent les services. Et ceux qui n'en ont pas, n'ont pas accès à ces services-là. Donc pour nous, on est effectivement pour qu'il y ait la possibilité que tout citoyen dans cette région, quel que soit le territoire sur lequel il habite, que ça soit en zone rurale ou en zone urbaine, puisse avoir un égal accès à l'ensemble des prestations. Donc c'est sur cette base-là, effectivement, que nous étudierons ensuite comment on gère le budget de la région.
Alors, pour en rester
uniquement à cet aspect-là.
Comment voilà. Il imaginerait de gérer le budget de la région en conservant ses services, Guillaume Sérias.
Oui, je vais vous répondre après avoir fait une précision. C'est que je ne voudrais pas que notre débat tourne uniquement à 8 prises de parole sur la technicité du budget régional et thème par thème. Je pense que nos auditeurs ne suivront peut-être pas le débat jusqu'au bout. Il y a une question politique dans ces élections régionales qui est posée, c'est celle du vote souverain, du vote du peuple français à un moment de l'histoire de notre pays, où, après les élections régionales, le gouvernement de M. Sarkozy a décidé, un, de remettre en cause et de supprimer la retraite à 60 ans, deuxièmement, par exemple, de mettre en place la taxe carbone, qui est une taxe la plus injuste qu'on puisse imaginer, puisqu'elle va toucher tous les plus faibles, ceux qui n'ont pas d'alternative à la voiture, par exemple. Donc cette élection, elle tombe à point nommé pour que notre peuple s'insurge, se saisisse de son bulletin de vote, vote pour le Front de Gauche, pour mettre une bonne gauche à la droite. Voilà. Et pour préparer l'alternative politique dans ce pays. Et dans les régions, il faut élire une gauche de combat, une gauche d'intérêt général, pas une gauche routinière, pas une gauche raplapla, qui défend les services publics sur le territoire, qui vote sa libéralisation, leur libéralisation, en particulier au Parlement européen. Bon. Voilà l'enjeu pour nous, hein. Mettre en avant une gauche de combat, d'intérêt général. Deuxièmement, j'en viens à votre question sur le budget de la région. Vous avez demandé deux fois comment les régions vont faire pour compenser la suppression de la taxe professionnelle. Mais les régions n'ont pas ce moyen-là, elles ne l'auront pas. C'est-à-dire que les régions n'auront plus aucun levier pour lever des ressources supplémentaires. Plus aucun. Donc ça pose un problème qui est politique et pas uniquement budgétaire ou économique. Les régions n'auront plus de marge de manœuvre budgétaire, mais donc de marge de manœuvre politique pour mettre en place une politique répondant à l'intérêt général. Et ça remet en cause l'essentiel de ce qu'a conquis, par exemple, la Révolution française et notre droit républicain, à savoir que le peuple est souverain et qu'il peut, par son vote, se doter d'élus qui mènent des politiques répondant à l'intérêt général et au bien commun. Si les collectivités n'ont plus le moyen ni de lever l'impôt, ni d'avoir un budget permettant de faire des choix politiques pour répondre à l'intérêt général, en réalité, les collectivités locales risquent de se retrouver un petit peu comme des autorités administratives déconcentrées de l'État, sans aucune marge de manœuvre politique. Le seul moyen, c'est que les régions se retirent progressivement d'un certain nombre de politiques et rappellent l'État à ses responsabilités sur les dossiers qui lui incombent de par la loi. Deux exemples, l'enseignement supérieur, les régions et la région Midi-Pyrénées investissent des centaines de millions d'euros pour entretenir les bâtiments universitaires à Toulouse, par exemple. Je pense que c'est une responsabilité qui, de par la loi, revient à l'État. Il faut dire, c'est à l'État de l'assumer, stop, et nous, on réoriente ces 100 millions, 150 millions sur 6 ans, sur les lycées et sur le développement de l'emploi, du pouvoir d'achat, avec des nouveaux critères économiques. Voilà, l'enseignement supérieur, il faut rappeler l'État à ses responsabilités. Et d'autres dossiers de la même manière. Par exemple, les routes nationales. Parce que je termine, vous avez parlé d'impôts régionaux. Moi, je note une chose, c'est que dans ce département, le tête de liste de l'UMEP a reporté le vote du budget du Conseil général de l'Aveyron et donc des taux de fiscalité de ce département au 31 mars, c'est-à-dire après les élections régionales. S'il pense que les Aveyronnais ne vont pas comprendre que M. Luche les prend pour des idiots, des benets, et que les Aveyronnais ne vont pas comprendre qu'ils s'apprêtent à matraquer fiscalement si c'était pour mettre en place des politiques sociales, pour le handicap, pour la vieillesse, pour la petite enfance, très bien, on pourrait discuter d'augmenter les impôts. Non, là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'augmenter au moins de 6 points la fiscalité qui va taper les Aveyronnais pour payer. Écoutez, les 55 millions d'euros qui sont investis par le Conseil général de l'Aveyron pour la RN 88, c'est très bien si cette route avance. Le fait est que ça va se traduire par une augmentation de 6 points des impôts départementaux, parce que 55 millions, ça représente ça. Et que c'est un dossier qui est de compétence d'État. Et
qu'à un moment donné, il serait bien... Sur le département, l'État et les transports, que les transports, pour l'instant, on n'a pas encore pris comme thème. Et j'aurais souhaité, vous savez que vous êtes nombreux, donc j'aurais voulu maintenant que le mouvement démocrate, Jean-Marie Doré, s'exprime sur le budget de la région le plus rapidement possible, parce que j'aurais voulu qu'on traite deux autres sujets, mais à ce moment-là, je vous les exposerai et vous les gérerez un peu vous-même. Donc sur le budget de la région et ce qui est versé au privé.
Oui, c'est vrai que le budget de la région, 1,252 milliards d'euros, doit rester. Le budget doit rester une autonomie de la région. Il n'y a pas de collectivité, de véritable collectivité locale sans autonomie fiscale. Donc là, je pense qu'au niveau de l'ATP, tout n'est pas encore réglé au niveau du gouvernement, mais il faut que les régions et leur autonomie fiscale, et que ce ne soit pas des dotations d'État.
Voilà. Alors, ça veut dire qu'elles lèveraient l'impôt complet pour payer leur budget.
Je pense que les régions devraient lever l'impôt comme elles le font aujourd'hui. Quoi. Sous une autre forme, c'est sûr, mais...
Elles l'ont bien fait, puisque la Midi-Pyrénées, c'est la deuxième région métropolitaine en taux d'imposition.
Arrêtez, regardez les chiffres, monsieur.
C'est les chiffres officiels. Hein.
Regardez que lorsque la région était gérée par un représentant de droite,
il y a 12 ans.
La moyenne du taux d'imposition était de 8,5 par an. Regardez ce qu'a fait Martin Malvy en tant que président de région. La moyenne sur les 10 dernières années, c'est 3,5%. Alors arrêtez d'annoncer des contre-vérités.
Mais non, mais actuellement, c'est en matière de taux d'imposition, c'est la deuxième après la région Languedoc-Roussillon.
C'est la région Midi-Pyrénées, c'est la région qui a le moins de potentiel fiscal. C'est la région.
Ah, oui, mais d'accord. C'est la région
qui investit également le plus.
Alors on va Lutte ouvrière, Martine Guillaume.
Oui, ben moi je tiens à dire que nous sommes pour l'arrêt total des subventions aux entreprises, que ce soit celles de l'État, au travers entre autres des nombreux cadeaux de la suppression de la taxe professionnelle, mais également au niveau des conseils régionaux, en majorité de gauche, au travers des contrats d'appui. Par exemple, à Midi-Pyrénées, je sais qu'il y a eu des aides même à des entreprises qui font des bénéfices comme Lieber, qui d'ailleurs a refusé des augmentations de salaire à ses salariés en grève. Et donc nous sommes, là-dessus c'est clair, nous sommes pour l'arrêt total de ces subventions aux entreprises. Cela permettra déjà, au niveau national, de créer des emplois au niveau des services publics, alors qu'il en manque justement, que ce soit dans les hôpitaux, dans l'éducation, on l'a dit tout à l'heure, et à la poste et partout. Et donc, ce serait une des premières mesures à prendre pour un conseil régional.
Alors, le conseil régional mettrait à disposition des postiers, des personnels hospitaliers.
Non, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais comme l'ont rappelé plusieurs intervenants, cette politique est nationale et les problèmes du conseil régional découlent malheureusement de la politique nationale. Ce serait bien si on était un îlot parfait ici au niveau de la région, mais je ne crois pas que ce soit le cas, que ce soit au niveau des services publics ou des subventions aux entreprises. Ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'un des principaux problèmes actuellement, ce sont quand même les licenciements et le chômage, et je pense que c'est surtout là-dessus qu'il faut discuter, et que c'est pour ça que nous sommes contre l'arrêt de ces subventions aux entreprises, parce que malheureusement, au lieu de sauver des emplois, parce que c'est souvent sous ce prétexte-là que l'on continue à donner des subventions, eh bien, ils n'ont servi qu'à sauver des profits. Et c'est là-dessus, on dit qu'il y en a assez de continuer à subir les attaques, en tout cas que le monde du travail en a assez de subir les attaques de la part du patronat et de son gouvernement à son service, et que donc il faudra prendre sur les profits de ces entreprises pour pouvoir créer des emplois et pour pouvoir au moins le maintenir.
Alors la dernière question sur le budget, après on va procéder autrement. Le nouveau parti anticapitaliste, Maxime Gaillac, sur le budget de la région.
Mais écoutez, je veux dire, moi, je partage un petit peu l'analyse de la représentante de Lutte Ouvrière, c'est-à-dire sur le fait où il y a... sur le fait où il y a des milliers d'euros qui ont été balancés par le conseil régional de Midi-Pyrénées, hein, je veux dire aussi bien Midi-Pyrénées, aux entreprises privées, aux patronats privés, pour maintenir les profits de ces entreprises-là. Hein. Parce que c'est des entreprises qui ont licencié, qui ont menacé de fermer leur site. Ce sont des entreprises qui ont pratiqué le chômage partiel qui a été pris en charge par l'État et pas par les fonds publics investis par le conseil régional dans ces entreprises-là. Nous, on est pour que cet argent, eh bien, on le récupère. Voilà. Cet argent, on le récupère et on crée un fonds régional d'autogestion pour les salariés qui, justement, sont sous le joug du patronat. Pour des salariés qui, face à des plans sociaux, face à des attaques diverses du patronat, des menaces de fermeture de sites, puissent avoir les moyens financiers de reprendre leur outil de travail. Puisque la force de travail, c'est le salarié. Voilà. Qu'ils aient le moyen. Il y a eu des exemples. Il y a un exemple pas loin de Midi-Pyrénées, enfin à Fumel. Il y a l'exemple où les salariés ont repris effectivement leur usine. Hein. Alors ça a été compliqué parce que justement il n'y avait aucun appui extérieur. Nous on est pour que déjà aussi les régions elles servent de contre-pouvoir à la politique nationale mise en place par Sarkozy. Je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin si vous en souvenez, en 2004, quand au soir du deuxième tour, quand on a vu cette carte de France toute rose, on nous a dit, les élus au conseil régional, notamment le président de la région, nous a dit... vous inquiétez pas, voilà, tout est réglé, les régions sont en masse à gauche, on va faire de véritables contre-pouvoirs. Mais le bilan, on le fait six ans après, et comme je viens de dire, on le fait en voyant qu'il y a des fonds publics qui sont injectés, justement, pour maintenir les bénéfices du patronat, et voilà, donc nous on est pour la récupération de ces fonds, les conseils régionaux soient de véritables institutions, des véritables contre-pouvoirs à la politique nationale menée par Sarkozy.
Alors je voudrais qu'on aborde, et on va essayer je voudrais que vous débattiez tout de même un petit peu. Donc j'avais pensé parler des transports qui sont une prérogative régionale, mais on a aussi la question du voisinage, des euro-régions, et je sais que là vous avez certains d'entre vous des positions très tranchées là-dessus. Donc je crois qu'on pourrait parler du désenclavement. du désenclavement de Midi-Pyrénées. Comment on peut sortir de Midi-Pyrénées? Comment Midi-Pyrénées peut collaborer avec l'extérieur? Et je dirais là, c'est à vous de vous exprimer sur ce désenclavement et ses relations avec l'extérieur, Monsieur Origan. Le Front National.
D'abord, je vais reprendre un peu le fait de ce qu'a dit madame, et au niveau des délocalisations actuellement, parce que c'est vraiment le scandale actuel. Et je me demande si certains PDG de sociétés valent vraiment leurs 8 milliards, leurs 8 milliards de revenus. Pardon, de 8 millions de revenus annuels, hein, jusqu'à 12 millions de revenus annuels. Parce que dans le cas où ils sont. Est-ce que vraiment leurs compétences méritent tel salaire? Parce que franchement, actuellement, c'est vraiment le problème très important, la délocalisation des sociétés. C'est ce qui actuellement perturbe tout le système de l'embauche et du chômage, etc. Donc il faut arriver à arrêter ce problème-là immédiatement. Mais ça, c'est lié aussi au fait de l'Europe, bien sûr, puisque par derrière, vous avez un pays qui peut vous attirer comme... la société, je ne l'ai plus en tête, mais qui a eu le culot de dire qu'il était question de réembaucher les gens à condition qu'ils acceptent un salaire de 450 euros et qu'ils sachent parler le hongrois. Je trouve que c'est un peu exagéré. Il y a des limites quand même, il y a des contrôles à faire au niveau de ces choses-là. Alors évidemment, ce sont des gens qui vont en Hongrie. La Hongrie fait partie de l'Europe. Alors est-ce qu'on peut contrôler? Ça, c'est un autre problème. Mais je pense qu'en effet, la délocalisation actuellement, c'est un des gros problèmes. Entre autres, je pense à celui-là. Maintenant, en ce qui concerne le sujet qui nous intéresse, le désenclavement.
Et la coopération éventuellement avec l'extérieur. Monsieur Roch.
Oui, on est en aviron. Vous venez du Tarn-et-Garonne, mais.
Non, mais parce qu'avec la Catalogne est un peu plus loin que la Haute-Garonne.
Alors, et on a un débat aussi méditerranéen, mais quand même, où l'aviron, où on doit dire ce qu'on souhaite pour l'aviron. Et vous savez que. Un dossier majeur pour les Aveyronnais, c'est quand même la fichue 88, quoi, hein, et qu'on arrive à la sortir. Donc, depuis 12 ans, sur cette route, il ne s'est pas fait grand-chose. Hein. Bon, et la dernière, les derniers événements, c'est quand Marc Sancy était président de région, le viaduc de Tanus qui a été doublé.
Bon, non, depuis 12 ans, il y a eu 200 millions d'investis par la gauche et zéro par la droite, monsieur Roch.
Non, monsieur Thierry, sur la partie aveyronnaise, vous me parlez. Parlons de l'Aveyron.
Sur la 88, seule la région est déjà intervenue.
Parlons de l'Aveyron. Bon,
Pas un centime du département,
oui, mais,
zéro.
Mais parce que le département n'avait pas à intervenir là-dessus.
Pas plus que la région. Pas moins que la région.
C'est une route nationale de compétence de l'État.
Oui, là, mais je vous rappelle que vous avez mis fin aux routes à vocation régionale, aux itinéraires régionaux qui existaient sous Marc Sancy, que nous ici on en avait
non,
profité.
Non, c'est pas ça. C'est si. Le gouvernement UMP qui a retiré le volet routier des contrats de projet État région, monsieur.
En tous les cas, nous, du temps de Marc Sancy, on avait eu une aide de la région pour la rocade nord de Villefranche. Bon, et depuis, bon. Mais c'est le passé, puisque maintenant la région a décidé de s'investir sur la 88. Et c'est très bien. C'est pour l'Aveyron, c'est fondamental. Si on veut développer l'économie de ce département, il faut à tout prix que cette 88 soit à deux fois deux voies. En sachant que c'est l'arrêt principal et que nous, on a d'autres. Alors, pour le désenclavement de la région elle-même, bon, il y a la traversée des Pyrénées. Et là aussi, c'était un projet qui était porté à l'époque par Sancy. Et la région espagnole en face, bon, ça c'est un projet qui n'a pas du tout avancé non plus en 12 ans, la traversée des Pyrénées. Ensuite, il y a le TGV, naturellement, et Toulouse est, je crois, la seule capitale régionale à n'être pas reliée à la capitale nationale par un TGV. Donc il faut absolument avancer sur ce dossier, parce que toutes les régions qui ont bénéficié du TGV ont vu leur situation économique fondamentalement transformée. C'est en matière de désenclavement et de développement.
Je vais lancer dans le débat. On a d'ailleurs eu ce débat ici. Oui. La région, toutes les collectivités locales d'ailleurs, sont sollicitées à des niveaux absolument effarants sur le TGV. Est-ce que personne n'a de réaction ou...
Non, mais on peut quand même continuer à parler de la nationale 88. Oui. Quand même. Voilà, je pense qu'on a quand même des choses à dire. Oui. On a quand même des choses à dire. Enfin, quand on dit effectivement que rien n'a été fait depuis 12 ans, pourquoi rien n'a été fait depuis 12 ans? Enfin, la nationale 88 pouvait tout à fait être aménagée. Il pouvait y avoir le contournement d'un certain nombre donc d'agglomérations. Parce que la question pour nous, c'est qu'effectivement, il faut sécuriser à la fois les usagers de la route et à la fois effectivement les habitants et les agglomérations qui sont concernées. Mais attendez, mais pour autant, je veux dire aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que deux fois deux voies ou autoroute, ça a les mêmes effets, c'est-à-dire c'est les camions sur les routes. Donc je pense qu'il faut quand même parler de ce problème de fond, parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une casse du fret. Et ça, cette casse du fret, elle coûte 800 millions...
Du fret rail, vous voulez dire?
Je parle du fret rail, oui. Eh bien, il y a 800 millions d'euros par an qui reviennent à la collectivité, globalement. Et ça met sur les routes 3 500 000 camions de plus par an. Donc là, je pense que là, franchement, on ne peut pas continuer comme ça. Ou alors, ça veut dire qu'il faut arrêter d'avoir des grandes envolées sur le climat, Copenhague, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut quand même qu'on ait une politique qui soit complètement volontariste de ce point de vue-là. Et donc, tout à l'heure, il a été dit, c'est une route nationale. Donc c'était à l'État, effectivement, à avoir ses engagements d'aménagement de cette route depuis des années et des années. Eh bien, ces mesures d'urgence, il faut les faire très rapidement. Bien sûr qu'il faut contourner Barraqueville, La Motte, je ne vais pas les énumérer, toutes les agglomérations qui sont concernées. Ça, c'est une urgence complète. Mais si demain, on fait deux fois deux voies, ce qui reviendra à une autoroute, ça veut dire qu'on mettra les camions sur la route. Et en plus, quand on me parle de désenclavement et d'activités nouvelles, qu'est-ce qu'on va assister? On va assister effectivement que les entreprises du bassin houillé vont se déplacer au bord de la deux fois deux voies. Mais c'est pas, il n'y aura pas pour autant de nouvelles activités qui seront créées. Ça veut dire que ça va participer aussi d'une certaine forme de désertification du département. Donc il faut faire très attention dans ce qu'on dit par rapport à cette question-là. Nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'est pas d'accord avec le fait que la région investisse comme ça dans le routier. Parce qu'on ne pourra pas investir et dans le routier et dans le rail. Et aujourd'hui, pour nous, la priorité, c'est le rail. Le rail pour les voyageurs, le rail pour le fret aussi. Et donc, on a par exemple deux lignes pour lesquelles il y a eu des mobilisations de la part des riverains, des usagers, etc., qui sont des lignes de chemin de fer, de Béziers à Neussargues. Cette ligne, elle est pratiquement laissée à l'abandon. Nous, on est pour la réactiver et en faire une véritable ligne à la fois pour le transport des voyageurs et pour le transport routier, de la même manière que la ligne Cap de Nacahor. Donc il faut à tout prix aujourd'hui, non, mais il faut à tout prix sur ces questions-là aujourd'hui, qu'on dise les choses telles qu'elles sont et qu'on ne fasse pas croire que le désenclavement passe par les autoroutes. Parce que d'une certaine manière, les deux fois de voie, c'est une forme d'autoroute.
Je vais dire, parce que beaucoup sont très favorables au rail. Je le comprends très bien et je comprends vos arguments. En même temps, je me permettrai de vous faire observer à tous, et pour que vous rebondissiez, parfois dans la ruralité, le rail ne nous est pas d'une utilité permanente.
Oui. Oui, je voudrais rebondir là-dessus, parce que c'est vrai qu'il y a une partie du rail qui concerne l'Aveyron et certains autres départements, mais aller faire une voie de chemin de fer sur les Vézeaux ou sur l'Aubrac, nous n'y arriverons pas. Donc on est obligé d'avoir des voies routières. Et la 88 a deux fois deux voies, pour moi c'est une obligation. C'est une obligation pour aménager réellement les territoires ruraux. Parce que nous on veut que chaque habitant de ce département, de cette région, soit à moins de 30 minutes des services publics. Quand on voit la voirie comment elle est sur notre département, 30 minutes, bientôt il faudra plus d'une heure pour aller dans certains hôpitaux. pour aller au tribunal, quand on voit que maintenant...
Si on ferme les hôpitaux, effectivement,
je voudrais revenir quand même sur la 88 et faire un petit rappel historique à monsieur le représentant de l'UMP. Parce qu'écoutez, les routes nationales, la RN 88, les routes nationales sont de compétences pures et strictes de l'État. Et là, c'est un véritable désengagement de l'État. L'État avait 30 000 kilomètres de routes nationales. Il en a transféré 18 000 au département. Il lui en reste 12 000. Et sur ces 12 000, il n'est pas capable d'intervenir sur ces routes nationales. Il vient solliciter les collectivités. L'État, qui le premier, dans le cadre de la réforme territoriale, veut supprimer les financements croisés. Et le premier à venir solliciter les collectivités sur des financements croisés. Il est le premier à venir faire les poches des collectivités sur un itinéraire dont il doit assumer seul sa réalisation. Alors, sur la 88, moi je dirais, c'est grâce à Martin Malvy que la 88, le dossier de la 88 s'est débloqué. C'est lui qui a sollicité l'État pour venir soulager la région sur le plan rail, et en contrepartie, il irait sur les routes nationales. Routes nationales, pas que sur la 88, mais sur les routes nationales de la région Midi-Pyrénées, puisqu'il y a d'autres départements qui ont besoin de désenclavement. Alors la 88, il y a un grand regret, parce que l'État, là aussi, n'a pas voulu prendre d'engagement. Il y a l'itinéraire Albi-Rodez, mais il y a aussi Rodez-Séverac. Et là, il n'y a aucun engagement de l'État à ce jour. Ce qui est dramatique pour le désenclavement de notre département, le désenclavement et le développement économique aussi de notre département.
Le Front de Gauche souhaitait s'exprimer, je crois que c'est souhaitable aussi, enfin que tout le monde
et un petit peu. Un mot sur la ligne à grande, sur la LGV.
Alors, enfin, un mot. Parce,
voilà, là aussi, ce n'est pas de compétence. Là aussi, c'est quand même un profond désengagement de l'État. Ce sont des politiques nationales. Et on vient solliciter les collectivités, toutes les collectivités, à aller sur cette ligne à grande vitesse. Et là aussi, la région a participé au financement des études, de même qu'elle a pris l'engagement d'aller sur le financement. Par contre, moi je note une chose sur le financement de la ligne à grande vitesse. Le département inexistant, le département de l'Aveyron, c'est le seul à ne pas avoir répondu sur ce désenclavement sur la LGV.
Monsieur Sérieux.
Oui, écoutez, quelques points de désaccord. D'abord, rétablir une vérité dans la suite de ce qui a été dit, à savoir que tous les chantiers importants qui ont été engagés sur la RN 88 depuis 10 ans, la déviation de Carmaux...
C'est pas dans l'Aveyron.
Non, c'est pas dans l'Aveyron, mais les Aveyronais, quand ils vont à Toulouse, ils passent à Carmaux, monsieur Roque, excusez-moi. Les 190 millions d'euros qui ont été investis depuis 10 ans sur cette route l'ont été du fait de la gauche. Monsieur Jospin, monsieur Malvy. Bon. Deuxième désaccord, il est avec Europe Écologie. Je ne pense pas que de mettre la RN 88 en deux fois de voie sur tout le tracé va augmenter mécaniquement les marchandises qui vont passer sur la route vers Toulouse, alors qu'aujourd'hui elles passent par le train, parce qu'elles passent déjà par la route.
Et il faut les remettre sur le train.
Oui, elles passent.
Il faut les remettre
bien
sur
sûr
le
qu'il
train.
Faut les remettre sur le train, oui, évidemment.
Parce que c'est catastrophique, mais évidemment, quand même, tous ces camions sur
les routes. Mais bien sûr, mais c'est pas parce qu'il faut les remettre sur le train qu'il ne faut pas aménager cette route en deux fois deux voies. Parce que l'aménagement en deux fois deux voies de cette route, c'est y compris une question d'égalité, de traitement entre les citoyens et les territoires de Midi-Pyrénées. Toutes les préfectures et départements sont reliées à Toulouse par une deux fois deux voies. Il en va d'une égalité de traitement et des capacités de l'Aveyron à se développer, y compris économiquement. La question du report modal
on
des marchandises...
On fera le bilan à un moment donné.
Comment faire pour qu'il y ait plus de marchandises qui empruntent les trains? Comment faire pour qu'il y ait plus de voyageurs qui empruntent les trains régionaux? Bon, c'est pas en faisant des sales routes dans la région. C'est en donnant les moyens à la SNCF d'assumer ses missions, et c'est deuxièmement en refusant de voter au Parlement européen ce qu'ont voté les parlementaires verts et socialistes, à savoir la libéralisation du transport de voyageurs et la libéralisation du fret.
Bon, c'est pas vrai.
Et en région, bien sûr que si, c'est vrai.
Non, ils n'ont pas voté la libéralisation du fret.
Et si.
Non, pas bref, vous êtes
mais
là
si,
pour
mais
ça.
Si, mais si, si, non, mais je veux
je
dire...
t'assure qu'il faut, que si. Je finis simplement sur un point, pas, pour donner une explication, pour donner une explication à nos auditeurs. Sur les trains et le désenclavement, la région a fait un effort budgétaire colossal depuis 6 ans. On a doublé le nombre de dessertes quotidiennes des trains régionaux. On a doublé le nombre de voyageurs qui empruntent annuellement les trains. Aujourd'hui, la région ne peut pas faire plus. On pourrait quadrupler le budget. On ne peut pas faire plus tant que l'État ne donne pas à la SNCF les moyens de fonctionner. Regardez, il y a 20 jours, une quinzaine de jours, on a eu un gel énorme. C'est la première fois de mémoire de cheminots dans cette région. Ce sont 5 locomotives qui ont gelé, faute d'entretien et faute d'avoir tourné pendant le gel. La faute à quoi ? La faute aux suppressions de postes d'emploi de la SNCF qu'a effectué le gouvernement. Donc encore une fois, c'est une question d'intérêt général et la région ne peut pas, seule parce que ce n'est pas sa compétence, remplacer l'État, que ce soit sur l'entretien des trains, les conducteurs de trains, les contrôleurs de trains. L'État doit assumer ses responsabilités pour que la région ne jette pas de l'argent en l'air. Pour que les trains soient effectivement conduits.
Mais elle va mettre quand même un budget considérable dans la RN 88, alors que c'est une route nationale, et donc elle prend bien le relais de l'État.
Alors, Martine Guiraud, parce que c'est M. Haut qui nous a amené à tout prix sur la 88, et du coup, le désenclavement s'est un peu résumé à ça. Mais on a encore quelques minutes, donc on parlera peut-être de nos relations avec nos voisins, Midi-Pyrénées et les autres régions françaises ou étrangères. Lutte ouvrière, Martine Guiraud.
Moi, je voudrais dire que le désenclavement, suite à tout ce qui a été dit par ailleurs, il a de mauvais jours devant lui, entre autres à cause de la décentralisation et du désengagement de l'État, effectivement. On rejoint là le problème de tous les services publics. Mais moi, j'aimerais parler de ce qui préoccupe le plus actuellement les classes populaires, c'est-à-dire les licenciements, le chômage, les retraites minables, le niveau de vie qui baisse. Et c'est ça qui préoccupe les gens actuellement. Et ben moi, je pense qu'effectivement, le conseil régional, il est impuissant peut-être devant ça, puisque c'est pas dans les exécutifs que se décide ce qui dirige l'économie. Ce sont dans les conseils d'administration des grandes entreprises, ils ne sont pas dans les conseils régionaux. Mais je pense que les travailleurs, ils ont quand même le pouvoir d'inverser le rapport de force. Alors, peut-être pas le conseil régional, mais par les luttes, les travailleurs, ils pourraient inverser les choses. Et ce que nous voulons dire essentiellement dans ces élections, c'est que justement, on n'est pas disposé à continuer à faire les frais de la crise et que il faudra se battre et ne compter que sur nous-mêmes pour pouvoir changer les choses. Et moi, je pense que c'est actuellement un des problèmes les plus importants. Alors, je suis d'accord, c'est vrai qu'il faut des routes, il faut des trains, mais pour tout ça, il faudra s'en prendre au profit des grandes entreprises pour pouvoir créer des emplois dans les services publics. Et après, voir avec la population quelle est la solution la meilleure, effectivement.
Quelque chose me dit que je vais entendre quelque chose qui ressemble un peu en écoutant Maxime Gaillac, pardonnez-moi.
Non, alors nous, juste aussi un mot sur les transports. Donc nous, la région gère donc tout ce qui est transports régionaux. Donc effectivement, nous on est pour que la SNCF aussi prenne ses responsabilités par l'embauche, sur l'entretien des machines, sur l'embauche des conducteurs de train. Bon, voilà, c'est quelque chose qui revient beaucoup là sur ces 2 mois, beaucoup d'articles. Il faut que la SNCF prenne ses responsabilités. Il faut, bon, mais bon, je veux dire, on est dans une campagne électorale, donc c'est un peu la période des faux discours radicaux aussi. Donc, nous, on est pour aussi la mise en place pour nous, les transports publics régionaux, ils doivent être gratuits. Pour nous, ils doivent être gratuits parce que c'est une urgence sociale. Voilà, c'est-à-dire que les salariés ou les jeunes prennent leur voiture pour aller travailler, pour aller étudier. Donc pour nous, ça serait juste écologiquement parce que ça réduirait le déplacement automobile et les émissions.
Quels transports seraient gratuits ?
Les transports régionaux. Transports régionaux, donc par le rail aussi, par la route, puisqu'effectivement il y a la mise en place de bus. Ça permet le développement des transports en commun. Voilà, et donc comment le financer ? Je vous donne la réponse, eh bien, par une taxe sur les entreprises, voilà. Alors, par une taxe transport, pour nous, l'employeur, le salarié vient travailler pour produire des richesses dans son entreprise. La moindre des choses, c'est que justement, il prenne à sa charge le déplacement du domicile sur son lieu de travail. Voilà. Donc déjà, par rapport à ça, nous, on est pour la mise en place des transports publics gratuits.
Bien. Alors, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, débattre un peu. Et peut-être que si je vous demande de parler des euro-régions, puisque quand je parle des régions voisines, c'est au fond de ça dont je parle. Bof, ça. Bon, ben, c'est très bien. Alors celui qui dit bof très fort, c'est Guillaume Sériès.
C'est parce que je suis à côté de vous.
Non, je...
Oui, madame Marcel.
Ben, sur l'euro-région Midi-Pyrénées, donc ça a été. L'euro-région a été créée en 2004 à l'initiative de Midi-Pyrénées. Donc, cette euro-région rassemble Midi-Pyrénées, le Languedoc-Roussillon et les communautés espagnoles de Catalogne et des Baléares et d'Aragon. Donc, elle compte 13 millions d'habitants. Donc, il y a également la création de la communauté de travail des Pyrénées. C'est un organisme interrégional de coopération transfrontalière.
Alors, ça fait des choses, c'est ça.
Bien sûr, et il y a également la mise en place de l'Eurocampus qui compte plus d'un millier d'étudiants.
Ouais, monsieur De Vezin, simplement, si vous voulez, je vous parle d'Eurorégion, mais franchement, je pense qu'il y a des soucis plus importants aujourd'hui pour nos concitoyens, de pouvoir d'achat, de services publics, de planification écologique qui est imposée par la catastrophe écologique qui avance dans notre pays et dans le monde. Peut-être l'économie. Moi, je veux bien dire un mot là-dessus parce que
l'agriculture. On n'en a pas parlé non plus.
Parce que c'est vrai que j'ai exprimé tout à l'heure un désaccord avec Europe Écologique. Elle m'avait pas trop. Je vais le faire du coup avec mes amis du NPA et de Lutte Ouvrière. Pour le Front de Gauche, il n'est pas raisonnable de dire.
C'est une assignation de deuxième tour là.
Non, sans parler de tout ça, mais la situation est suffisamment grave pour pas tomber dans des slogans simplistes. Par exemple, dire aucune subvention aux entreprises privées, je pense que ce n'est pas sérieux parce que je suis pour subventionner, par exemple, les entreprises qui produisent du bio. Je suis pour subventionner les entreprises qui répondent à un objectif de transition écologique de nos industries polluantes aujourd'hui. Je suis pour subventionner des productions qui répondent à une utilité sociale, écologique. Et on propose, le Front de Gauche, de réorienter 200 millions d'euros de la politique régionale autour d'un objectif central. Qui est la relocalisation d'activités économiques, agricoles, industrielles, commerciales, artisanales, dans nos territoires, au plus près de nos territoires, pour répondre à plusieurs objectifs. Un, la création d'emplois. Deux, la question écologique, parce qu'on ne compte plus le nombre de produits nécessaires à la vie quotidienne qu'on importe depuis les quatre coins du monde au mépris de l'environnement, des produits qu'on pourrait très bien produire sur place, distribuer sur place, consommer sur place. Donc, emploi. Écologie et troisièmement, aménagement du territoire par un équilibre dans la création de richesses sur notre région.
Alors,
oui, vous venez de parler de relocalisation, mais cela fait 12 ans déjà que vous êtes au pouvoir à Midi-Pyrénées et on voit que le milieu rural souffre. Donc cette relocalisation, c'est pas des mots, c'est pas des promesses, c'est des actes qu'il nous faut. Moi, je suis agriculteur, je vis dans le monde rural, je suis maire d'une petite commune. On commence à perdre la population. La population revenait, elle repart. Les agriculteurs souffrent. Cette semaine, il y a le salon de l'agriculture. Mais l'agriculture, dans notre région, est à l'agonie. Il faudra prévoir des prix planchers. Des prix planchers pour le lait de vache, le lait de brebis, les céréales. Je pense que proposer 400 euros par litre de lait à nos agriculteurs de Midi-Pyrénées, il pourrait y avoir une vision un peu plus optimiste de l'avenir. Pour l'instant, il ne voit rien. L'État a donné 1 milliard 600 000 euros pour la crise, mais ce ne sont que des prêts. Dans un an, il faudra que les agriculteurs remboursent tout cet argent. Et pour l'instant, ils n'ont pas de prix rémunérateur. Et c'est tout le tissu rural qui souffre pour l'instant.
Alors, moi, je voudrais bien rebondir sur ce que vient de dire monsieur, parce que c'est pour nous un axe très important. C'est que la région, elle a, dans sa mission d'aménagement du territoire et dans sa mission économique, elle a une responsabilité énorme de rééquilibrer les territoires entre l'urbain et le rural. Et ça passera par quoi ? Ça passera par le fait, effectivement, qu'il y ait des implantations, des, d'emploi de paysans. Mais pour cela, ça veut dire qu'il faut effectivement, comme le dit monsieur, ça veut dire qu'il faut effectivement que le travail soit rémunérateur.
Oui,
ça, et il faut aussi
ça,
qu'il y ait des outils.
Et
il faut aussi. Mais attends,
pas.
Ne confondons pas, ça veut dire simplement qu'il faut aujourd'hui que la région, effectivement, sur le plan de l'agriculture, accompagne, soutienne, aide. Tout ce qui ira
J'ai
dans le sens de développer une agriculture paysanne et une agriculture biologique. Donc là,
je crois qu'on se rejoint.
Il faut redistribuer
l'argent sur les humains et non plus sur les surfaces. Sur les surfaces ou le nombre de bêtes qui sont sur la
surface. Non, mais attendez,
on parle de la région méditerranéenne.
Mais attendez,
voudrait que l'on parle de politique régionale en matière d'agriculture.
Mais oui, justement, justement.
Mais là, la question. C'est l'État qui s'en.
Non, mais attendez, la question.
L'État se désengage.
On peut dire que l'État se désengage et que la région ne peut rien faire est impuissante.
Comment la région ne peut rien faire?
Donc la question. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'elle peut avoir des moyens. Elle peut avoir
mais
des
elle
moyens.
Met en place les
non,
moyens.
Mais est-ce que
elle
je peux quand même développer ce qu'on pense? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut aller vers le fait qu'il y ait une agriculture qui soit créatrice d'emplois et qui soit, y compris, aussi respectueuse de l'environnement. Donc, par rapport à ça, ça veut dire qu'il faut orienter les aides, les accompagnements. Et la région peut tout à fait, de ce point de vue-là, parce que qu'est-ce qu'on constate? On constate effectivement que quand on va de la production jusqu'à la transformation, on arrive à dégager une rémunération possible pour les agriculteurs. Mais je veux dire, les agriculteurs, ils ont cette conscience-là. Le problème, il est qu'ils se sentent complètement démunis pour opérer ces mutations et ces transformations. Donc, il faut bien sûr qu'aujourd'hui, la région ait une politique volontariste dans ce domaine-là.
On parle de la région, mais l'action de la nation aussi est très importante en ce qui concerne les agriculteurs notamment. Les agriculteurs sont.
On parle de la région parce que vous êtes candidat aux élections régionales.
Oui, mais bien sûr. Mais je veux dire, il y a toujours un rapport parce que vous prenez actuellement le problème de l'agriculteur. On le sait pas pertinemment. Le revenu moyen était de 22 000 euros en 2007. Il est tombé à 14 500 depuis 2009. C'est une perte énorme. Et l'agriculture française avait un très gros rôle à jouer hein, sur l'Europe pour la distribution des pays affamés, etc. On va pas revenir là-dessus. Le Brésil a joué le jeu là-dessus. Par contre, il y a une chose très importante. Je dis que l'État a un rôle à jouer auprès des centrales d'achat. Parce que ces centrales d'achat sont absolument captent absolument toutes les possibilités. Vous prenez par exemple un agriculteur qui s'engage à une certaine époque à vendre 10 000 tonnes de tomates, par exemple. Je prends l'exemple de tomates. Il s'engage. Je veux dire par là que c'est une coopérative ou un ensemble qui départ
oui,
avec
10 000.
Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La centrale d'achat va dire « Ok, mais à condition que vous nous donniez un prix très bas ». C'est-à-dire qu'à la dernière minute, au moment de livrer, on dit non, on reste sur le même prix, mais par contre, vous nous le donnez que 1000 tonnes au lieu de 10 000.
C'est bien pour donc, ça que les agriculteurs doivent se regrouper aussi.
Non, mais les agriculteurs sont esclaves actuellement de ces centrales d'achat qui les tiennent absolument en main. Et ils font c'est un diktat des centrales d'achat. Et je pense qu'on peut contrôler. Il n'y en a pas tellement des centrales d'achat en plus.
Pour donner quelques exemples, vous savez tous que l'agriculture biologique, les consommateurs en demandent de plus en plus. Au niveau agricole, ça ne suit pas. Mais l'association l'APABA au niveau de l'Aveyron reçoit 15 000 euros de la région et ne reçoit que 5 000 euros du Conseil général de l'Aveyron. Alors que l'agriculture biologique sur l'Aveyron représente 4% de la surface agricole utile. Voilà quelques exemples qui montrent.
L'État n'a fait aucun contrôle sur les banquiers.
Monsieur Roch, Monsieur Roch et Madame Marcel, on conclura.
L'État n'a fait aucun contrôle sur les centrales d'achat. Exactement le même système.
Monsieur Roch.
Effectivement, on est proche dedans. Il faut arriver à une synthèse de tout ça. Vous savez, tout se tient dans la politique, tout court dans la politique régionale. La compétence de la région, c'est quand même le développement économique à travers la formation, l'agriculture, l'économie, etc. C'est ça le grand chapeau. Bon, alors, je voudrais revenir d'un mot à la 88, parce que c'est aussi du développement économique. Non, mais ça sera vite fait. Simplement dire.
Non,
mais je vais en parler aussi.
C'était le sujet. Je vais en parler.
Non, mais si on veut développer, elle parlera. Si on veut développer, il faut s'intéresser à toute la 88. Je voudrais savoir. Brigitte Barège a pris l'engagement de travailler à toute la 88 depuis Sévérac jusqu'à la sortie.
Oui, elle a dit je ferai, sauf que ce n'est pas une compétence régionale, c'est une politique
premièrement,
d'État.
Laissez-moi parler. Deuxièmement, vous avez dit c'est Martin Malvy qui a débloqué l'affaire. Martin Malvy, il est là depuis 12 ans.
Je
pense que Jean-Claude Luche. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler, Madame Marcel.
Mais
moi aussi, je rétablis la vérité. Il était là depuis 12 ans. Il y a eu aussi un nouveau président du Conseil général. Il y a eu Jean-Claude Luche. Je pense qu'il a joué un grand rôle dans le déblocage de ce dossier.
Et c'est d'ailleurs
lui. C'est d'ailleurs lui qui a
proposé. C'est d'ailleurs lui qui a proposé
la lettre signée par tout le monde. C'est lui qui est allé voir Borloo. Enfin, je pense que le Conseil général a joué là un grand rôle. Sinon, comment ça se fait?
Monsieur Bure, préfet de région, a reconnu le déblocage par Martin Malvy, président de région lors de la signature de la
convention.
Troisièmement, l'agriculture. Revenons à l'agriculture. Bon, l'agriculture, effectivement, c'est important. Et c'est important pour l'Aveyron. C'est le département le plus fort en agriculture au tout Midi-Pyrénées. Et l'agriculture est importante au niveau français et au niveau Midi-Pyrénées. La plus grande région de France, c'est Midi-Pyrénées. Donc ça veut dire que c'est la plus grande région agricole également. Et dans cette plus grande région agricole, l'Aveyron pèse le seul 22%. Donc il faut mettre le paquet sur la politique agricole. Ouais. Et l'engagement de Brigitte Barège, si elle est élue, c'est de tripler le budget de l'agriculture pour aider davantage les agriculteurs.
C'est pour aider
toute l'agriculture, en particulier l'agriculture qui tient le territoire, l'agriculture des niches écologiques. Il est question également de créer des cantines du terroir dans chaque lycée, de façon à ce que les lycées utilisent les produits locaux. Donc on a de créer un fonds de garantie, et notamment pour la trésorerie des agriculteurs. On a, une grande ambition pour l'agriculture de Midi-Pyrénées et pour l'agriculture de l'Aveyron, qui encore une fois constitue le quart de l'agriculture de Midi-Pyrénées, quasiment, c'est l'agriculture aveyronnaise. C'est donc un enjeu aveyronnais considérable. Et puis, il y a tout le secteur des petites entreprises qui pèse beaucoup, artisans, commerçants, petites et moyennes entreprises. Vous savez, le problème de la France, si on a des problèmes sur un plan de lutte économique par rapport à l'Allemagne et l'Angleterre, c'est qu'on a deux fois moins d'entreprises que ces pays-là. Eh bien, je pense que l'objectif des régions, ça serait de densifier.
Bon, on a compris, monsieur, que vous nous faisiez votre conclusion, c'est tout à fait gentil. Alors, on va donner un petit peu la parole à Marcel et à monsieur Sérieux.
Voilà, moi, je voudrais parler justement d'agriculture.
Rapidement, vraiment.
Voilà, le secteur, le monde agricole, qui traverse quand même la crise la plus sévère de ces 30 dernières années, et toutes les filières confondues, que ce soit le lait, que ce soit bovin, viande, etc. Toutes les filières sont concernées et on assiste depuis deux ans, il y a une baisse des revenus des agriculteurs de plus de 50%. L'agriculture, c'est une des priorités de la région. Une des priorités de la région, l'accompagnement du secteur agricole et agroalimentaire. Pourquoi le secteur agricole
c'est
et agroalimentaire,
comment
et pourquoi, je vais vous dire, c'est le premier secteur d'emploi de la région Midi-Pyrénées et du département de l'autre département également, dont la région accompagne massivement l'agriculture et l'agroalimentaire. Alors j'entendais tout à l'heure, il y a l'écuma, moi je voudrais dire à monsieur Roque, quand vous dites l'agriculture n'est pas une compétence du Conseil général, le département de l'Aveyron est le seul département de Midi-Pyrénées à ne pas intervenir dans l'écuma, à ne pas aider l'écuma. pour les autres départements, il n'y a pas de problème, ils interviennent dans l'écuma. Alors les aides
mais
de l'agriculture,
les aides de l'agriculture, on peut multiplier les exemples.
L'agriculture biologique, l'hydraulique, moi je vous en passerai, les bâtiments d'élevage, où là aussi l'État s'est désengagé de cette politique des bâtiments d'élevage pour le financement. L'aide à l'agroalimentaire, l'habitat des jeunes agriculteurs, l'aide à l'élevage, l'aide aux productions végétales également. Ensuite, il y a toute la solidarité, face aux crises, solidarité lorsqu'il y a eu la sécheresse, le plan viticole, la crise aviaire, la fièvre catarrhale et dernièrement la crise du lait. Il y a toutes les aides en direction de l'enseignement agricole. Voilà, toutes les aides en direction de l'enseignement agricole. Combien cet enseignement est indispensable sur nos territoires. Et là aussi, Monsieur Roque, je soulignerai le désengagement de l'État, le désengagement avec une suppression de moyens d'enseignants, de postes d'enseignants dans ces enseignements. Tout le monde en reconnaît l'excellence et dans le même temps, l'État, la droite, en supprime les moyens. Bon, et il y a ensuite, et nous irons beaucoup plus loin, alors simplement
ça
avec l'aide à la
création d'un s'appelle même plus débordé, on est au plan du temps d'antenne,
des médecins en milieu rural, qui est
Monsieur Regard, s'il vous plaît, au plan du point de vue du temps d'antenne, on est dans l'état où était la Vendée, les digues ont été rompues, on a complètement débordé.
Oui, mais le milieu agricole est pareil pour l'instant.
Voilà, alors je... Donc c'était notre débat à propos des élections régionales. À Villefranche-de-Rouergue, il y en aura un autre à Montauban la semaine prochaine. Et donc, Claude Devezin, je recevais pour l'UMP Serge Roque, pour Lutte ouvrière Martine Guiraud, pour le Parti socialiste Marie-Lou Marcel.
Il n'y a que l'UMP, le Parti socialiste, qui a conclu le débat.
Parti socialiste, PRG, MRC.
On ne peut pas conclure à 8.
Parti socialiste, PRG, MRC.
Et Nouveau Centre, et moi aussi, j'en peux dire, il n'y a plus que l'UMP.
Le Mouvement démocrate, Jean-Marie Doré. Europe Écologie, Marie-Françoise Vabre, le Front de Gauche, Guillaume Sériès, le Nouveau Parti Anticapitaliste, Maxime Gaillac, et le Front National, Jean-Pierre Horrigan.
Voilà.